La Voix des Notaires. Chers auditeurs, La Voix des Notaires vous est présentée cet après-midi par Pierre-Alain Bénard, à la technique Simon Martin, et nous recevons au studio de Chartres Maître Louis Marcel, notaire à Chartres. Bonjour Louis.
Bonjour Pierre-Alain.
Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur un sujet que nous avions abordé il y a déjà quelque temps dans le chapitre des transmissions particulières. Transmission particulière, souvenez-vous, nous avions parlé de donation-partage à des enfants issus de lits différents. Nous avions parlé également de donation-partage avec des descendants de degrés différents. Nous avions abordé également la question de la renonciation à succession. Aujourd'hui, je vais demander à Maître Marcel de nous entretenir des libéralités graduelles et résiduelles, en donnant peut-être d'abord une définition. Qu'est-ce qu'une liberté, une charge graduelle? Qu'est-ce qu'une charge graduelle? Qu'est-ce qu'une une libéralité ou une charge résiduelle? Comment est-ce qu'on peut définir en deux mots?
Alors, si vous voulez, donc déjà, il faut qu'il y ait à la base une libéralité, c'est-à-dire soit un testament, c'est-à-dire un acte qui prendra effet au décès de la personne et par lequel la personne a émis ses volontés, ses dernières volontés, comme on dit, c'est-à-dire un acte de transmission gratuite et de répartition de son patrimoine, ou de son vivant par une donation, partage ou donation simple. D'accord. Il faut donc au préalable un acte primaire qui est donc cette libéralité. Et en fait, comme son nom l'indique, c'est une charge, la charge graduelle et la charge résiduelle.
Donc dans l'acte en question.
Voilà, dans l'acte en question, on stipule, enfin le disposant stipule, donc le donateur ou le testateur, stipule une charge particulière qui va avoir un effet différent selon que la charge est dite graduelle ou résiduelle. Alors la charge graduelle, c'est l'idée de dire, j'impose à la personne à qui je transmets mon patrimoine ou mon bien, de le conserver de son vivant, à charge de le transmettre à une autre personne que je désigne moi-même dans la convention ou dans le testament.
C'est ça. Donc, on est bien d'accord, il y a une donation ou un testament, et à l'intérieur de cet acte, le donateur ou le testateur impose à celui, enfin, ce qu'on appelle le gratifié,
Il impose
l'obligation de
garder le bien en vue de le transmettre à une deuxième personne, qui est le second gratifié, on appelle ça le second gratifié, qui est elle-même désignée par le donateur ou le testateur.
C'est ça. Donc ça, c'est fixé dans l'acte dès l'origine.
Voilà. Alors en fait, c'est un moyen de pouvoir garder, j'allais dire, le bien, alors le bien dans la famille, ou en tout cas que le donateur garde la main sur les destinataires du bien, sur deux transmissions. Au-delà de ça, ça ne fonctionne pas.
D'accord.
On ne peut pas imposer des charges graduelles ad vitam aeternam. Ce n'est pas possible.
Oui, ça serait contraire à un principe de libre circulation des biens.
D'ailleurs, pendant très longtemps, les libéralités graduelles ou résiduelles, d'ailleurs, ont été très, très mal vues par le droit civil. À tel point qu'il a fallu la réforme de 2006 pour que son recours soit libéralisé. Parce que pendant très longtemps, on a soupçonné que par ce biais, on maintienne les règles de primogéniture. C'est-à-dire le fait qu'on transmette le patrimoine à chaque fois à l'aîné de chaque génération.
D'accord. Alors ça, c'est charge graduelle, c'est vu. Alors, la charge résiduelle.
Alors, c'est une charge un petit peu moins contraignante.
Et là aussi, il y a une donation ou un testament.
Voilà, à chaque fois, il faut un support. Il faut un support de libéralité. Mais la charge est un peu moins contraignante parce que là, en fait, on dit, je transmets donc le bien à charge pour le gratifier de transmettre s'il reste, enfin, s'il s'il existe encore au jour de son propre décès.
Et là, là aussi, on désigne le futur voilà. gratifié, tout le gratifié fait. Numéro 2.
De suivant. Rang. Voilà. Donc en fait, c'est moins contraignant parce que le premier gratifié peut vendre, enfin, peut disposer du bien. Et ça n'est que si ce bien est encore dans son patrimoine au jour de son décès que la clause va s'exécuter.
Très bien. Mais alors, fiscalement, comment ça va se passer ?
Alors, en fait, l'intérêt, c'est que fiscalement, par une forme de fiction, on considère que c'est le premier, enfin, c'est le disposant qui a disposé au profit du deuxième gratifié. Et que la transmission n'intervient pas du premier gratifié au deuxième gratifié.
D'accord. Donc, alors, les droits vont être calculés en fonction du lien.
Voilà. Tout à fait. Du lien qui existe entre le premier gratifié et le second gratifié. Le disposant et le second gratifié.
C'est ça, on fait abstraction du gratifié intermédiaire.
Voilà, tout D'accord. à fait. Donc, ce qui peut présenter, dans certaines hypothèses, un avantage fiscal. Hein, si on est dans des transmissions en ligne collatérale.
Alors, on va gommer, en fait, le coût d'une transmission, voilà, en quelque sorte.
Tout à fait.
Donc, c'est l'intérêt de ce genre d'opération.
Voilà.
Que là, bien sûr, que les notaires maîtrisent.
Hein, tout à fait. Alors, on ne peut pas le conseiller dans tous les dossiers. Hein, c'est quand même très particulier. Oui. Souvent, on a affaire à des... Soit il y a des problématiques. Alors, il y a déjà une contrainte qui n'est pas encore levée. C'est qu'il ne faut pas que cette disposition, donc cette charge de graduelle ou résiduelle, porte sur la réserve d'un enfant.
D'accord. Sur cette part incompressible, voilà, de l'enfant.
Voilà. Parce qu'il y a un grand principe qui veut que la réserve doit être transmise libre de toute charge.
D'accord.
Alors, sous cette réserve-là, donc ça peut jouer, on retrouve ce genre de clause dans les transmissions généralement plutôt en ligne collatérale.
Frères et sœurs.
Oui, voilà, frères et sœurs. Avec des notions de handicap, parfois aussi avec des notions de handicap. Voilà, on a dans sa famille un enfant, enfin une personne handicapée qu'on souhaite gratifier, mais on souhaite maîtriser,
qui va profiter de ce bien,
voilà, qui va
en bien,
profiter de son
vivant,
voilà, surtout si c'est un bien qui frugifère, enfin qui produit
des revenus,
donc qui peut être utile pour la personne à protéger, pour la personne handicapée. Mais néanmoins, on veut en maîtriser le devenir, le sort, une fois que cette personne handicapée sera elle-même décédée.
D'accord. Donc, retenons libéralité graduelle et résiduelle dans des situations extrêmement précises, bien particulières. Et là, bien sûr, le notaire est l'orfèvre en la matière. Kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix. Baby, let me blow your mind tonight. Take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. Après avoir vu les libéralités graduelles et résiduelles, nous allons voir un autre chapitre qui sont les dons familiaux de sommes d'argent. Alors, il y a des facilités fiscales, hein, qui existent actuellement, il faut en profiter, mais c'est lorsqu'il y a des dons d'argent. Hein. Ce n'est pas de biens en particulier, mais voilà, de sommes d'argent.
Ouais, alors, là-dessus, il faut être très,
oui,
très précis.
Oui,
s'agir effectivement de sommes d'argent.
Alors, il y a des conditions, naturellement, pour celui qui, attaché alors, à celui qui donne, voilà, à celui qui reçoit.
Voilà, il y a trois conditions. Il y a des conditions liées à ce que l'on donne, c'est-à-dire il faut que ce soit une somme d'argent. Conditions liées à celui qui reçoit, conditions liées à celui qui donne.
Alors, qu'en est-il ?
Alors, les conditions liées à celui qui donne, il faut que le donateur ait moins de 80 ans révolus. Voilà, donc c'est réservé à des donateurs de moins de 80 ans. Donc c'était une première contrainte, tout simplement parce qu'on veut éviter des transferts un peu, j'allais dire, inarticulo mortis, ou en tout cas...
Trop tardifs. D'accord.
Donc, premier point, donateur de moins de 80 ans. Deuxième point, il faut que le donataire...
Celui qui reçoit.
Voilà.
Ou celle qui reçoit.
Lui, elle, soit majeure et présente un lien de parenté avec le donateur. Donc, c'est soit un descendant, si le donateur a des descendants. Si le donateur n'a pas des descendants, ça peut être des neveux-nièces.
D'accord. Voilà. Donc, ça, ce sont les conditions attachées à celui ou celle qui reçoit.
Voilà.
Et puis, alors, il y a évidemment la somme d'argent qui va...
Voilà, qui va permettre de disposer... Oui, voilà. C'est évidemment limité dans son montant. La somme est aujourd'hui 31 865 euros par donateur et par donataire. Dans une période de 15 ans.
C'est ça. Donc ça, ce chiffre-là ne subit aucune taxation. Ça arrive net...
D'impôt. Tout à fait.
Donc ça, c'est intéressant. Il faut...
Et ça s'ajoute, il faut le préciser, ça s'ajoute à l'abattement classique de 100 000.
Par enfant.
Enfin, je dis 100 000 quand il s'agit d'un enfant.
Bien sûr.
Mais ça s'ajoute aux abattements, j'allais dire, classiques dont tout donataire peut bénéficier par rapport à un donateur.
Alors, comment ça se passe? Il faut un acte
Alors...
Ça se passe à l'administration.
C'est un don manuel. Alors, le principe du don manuel, c'est qu'il est taxé à sa révélation. Et la révélation, elle peut intervenir de plusieurs manières. Ça peut être dans le cadre d'une, j'allais dire, d'une procédure judiciaire. Ça peut être dans le cadre d'un contrôle de l'administration fiscale. Et le plus souvent, ça a lieu dans le cadre d'une révélation volontaire de la part des parties. Souvent... Alors là, les choses sont conçues de telle manière que c'est le donataire qui doit faire cette révélation. Et alors, comme tout don manuel, il peut intervenir sans support, j'allais dire sans acte, sans instrumentum, sans acte juridique. Mais enfin, on le déconseille fortement parce que ça présente des risques civils qui peuvent être non négligeables. Hein.
Donc là, qu'est-ce que vous préconisez ?
Ah, moi, clairement, je préconise l'acte authentique.
Bien sûr.
Alors, l'acte authentique...
Parce qu'il est indiscutable.
Parce qu'il est indiscutable, parce qu'on peut assortir, dans ce cas-là, le don manuel, un certain nombre de conditions, de réserves, de charges que l'on ne peut pas...
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Voilà. Bon. Voilà, c'est le propre de l'acte authentique, on est bien d'accord. Dernier point, nous en terminerons, le cantonnement.
Alors, le cantonnement, c'est une souplesse... qui a été introduite par la loi de 2006 en matière de libéralité, libéralité entre époux, le plus souvent entre époux, c'est la possibilité pour quelqu'un qui a été gratifié, soit par donation entre époux, soit par un testament.
Prenez l'exemple de la donation entre époux.
Voilà, donation entre époux très classique. Je laisse à mon épouse la quotité la plus large si je viens décéder. Eh bien, l'épouse peut tout à fait dire, le moment venu, ah bah, moi, je n'ai pas besoin de tout cela. Je vais cantonner, d'où le terme cantonnement, je vais cantonner mon émolument, c'est-à-dire ce que je vais recevoir.
Je vais prendre une fraction.
Voilà, je vais prendre simplement une fraction, tel bien, par exemple.
Ou tel bien.
Tel bien, ou je me contente des biens propres, ou ma moitié de communauté, mais voilà.
Alors, chers auditeurs, vous avez presque tout compris, le cantonnement, mais naturellement, pour toute autre précision, votre notaire est à votre disposition. Et je vous rappelle que cette émission, vous la retrouvez le mercredi à 16h15 et le samedi à 15h sur votre radio préférée. Bonne fin d'après-midi. What you waiting for?